102.1 Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Les 60 prochaines minutes seront toujours exceptionnelles avec cet homme. C'est Jean Nadeau, conférencier international. Jean Nadeau, salut.
Salut Yannick, ça va bien?
Je suis très content de te voir. Je pensais que tu étais encore en France. Là, avec,
non, on est de retour, on est retour. On est allé là la mi-avril. Succès, écoute, phénoménal.
Oui.
Phénoménal. C'était très différent. Ben, tu as assisté à la retraite, en fait, dont on parle. Là.
Retraite silencieuse.
Silencieuse qu'on fait dans une abbaye ici au Québec, à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, à laquelle t'as cité. Là, on était dans une abbaye dans le coin de Lyon, à peu près à 30 minutes de Lyon, à Saint-Rambert-en-Bugey. Puis, ce qu'on a trouvé différent, c'est, tu sais, c'est une retraite silencieuse. Les gens nous écoutent. On a 9 ateliers. Puis, mais ici, au Québec, on dirait qu'on vous voit... On voit une certaine transformation qui se fait d'atelier en atelier. On voit que les gens embarquent, puis ils font les exercices. En France, écoute, c'était drap beige. On n'était pas capable de lire le monde, jamais. À la fin des ateliers, Régis et moi, on se parlait, puis « Tu trouves-tu la même chose? » Ouais, ils nous écoutent-tu? Ils nous comprennent-tu? Pourtant, on parle la même langue. Puis finalement, ça a commencé peut-être un petit peu à être plus pas chaleureux. Puis tiens, c'est pas des conférences ou des ateliers qu'on fait pour se faire applaudir à la fin, puis tout ça, mais... T'sais, ici, on sentait que le monde embarquait là-bas, moi, mais écoute, on a eu les commentaires à la fin, le petit questionnaire qu'on vous passe, là,
oui.
Et c'était de loin, les meilleurs résultats qu'on a jamais eus. Fait que finalement, ça marche.
Bon,
c'est exportable. C'est on retourne
ça.
À Paris. Là.
Mais culturellement, sont un peu plus difficiles à lire?
Ben, en fait, ce qu'on m'avait déjà dit, j'avais déjà été donné des conférences à Paris, en France, en fait, puis en Belgique, puis on m'avait dit, les Européens sont habitués, eux autres, au niveau conférences en développement personnel, sont habitués aux Anthony Robbins de ce monde. Tu sais, ceux qui montent sur des scènes, puis de la musique, puis on se tape dans les mains, puis on bouge fort, puis on se fait des câlins, puis... Puis c'est pas ça pantoute, la retraite, là. Hein, tu l'as vécu, on est loin d'être à se taper dans les mains puis tout ça. Donc, c'était très différent. Comment prenait-il ça au début? Ben, on se le demandait, puis finalement, ben, à la fin, ça a été assez bon pour qu'on y retourne. On y retourne à la fin du mois de septembre à Paris.
Ah non, j'ai adoré cette retraite silencieuse-là. Puis parfois même la fin de semaine, quand mes enfants sont tous dans la maison, nous autres, on est 6 à la maison. Donc, ma blonde est là, moi, je suis là, les 4 enfants, j'en ai 2 préfables. J'ai 2 chats, un chien, puis quand tout le monde est excité, je peux te dire que je retournerai dans la retraite silencieuse au minimum 15 minutes. Je l'ai faite pendant 3 jours avec vous autres, puis j'ai adoré ça. C'était la première fois de ma vie que j'essayais ça, puis je m'étais lancé ça comme défi d'essayer des choses. Je sais pas si toi t'es comme ça, mais je trouve des fois qu'on devrait peut-être être plus ouvert envers les choses qui sont un peu moins familières.
Tout à fait.
Pour découvrir des choses. Comment on peut savoir si on n'aime pas quelque chose?
C'est comme ça que t'évolues.
Si on ne l'essaye pas.
C'est très rare, moi, que je vais acheter... Au début, peut-être. Au début, j'étais plus dans la similarité du langage dans le domaine du développement personnel. Le pareil au même, la bulle de pète dans un bain tourbillon. Là. mais après ça, je me suis dit, OK, j'ai mon opinion. J'ai ma façon de voir ça. C'est la mienne. Ça m'appartient à moi. C'est ce qui fait ma distinction. Maintenant, allons lire celle des autres. Parce que c'est pas vrai que j'ai la vérité absolue, là. Fait que, tu sais, sur un livre, mettons, de 300 pages, il y a peut-être une page à quelque part qui va venir me chercher. « Ah, oh, ça, c'est un point de vue que j'ai jamais pensé. Peut-être que je peux changer mon point de vue par rapport à ça. » Mais il faut se donner la peine de faire ça, que ce soit, là, je parle de lecture, mais que ce soit à travers des expériences pareilles, là.
Ouais. Je regardais les sujets que tu voulais nous proposer à la belle gang de Boulevard, puis il y en a un qui m'intéresse beaucoup. On parle d'actualité.
Ouais.
La politique américaine, actuellement. T'sais, moi, je trouvais ça intéressant, la politique américaine. Puis, tu sais, peu importe qui sera choisi, tu sais, on va avoir, nous autres, au Canada, à vivre avec la personne qui sera choisie, Jean. Et là, ce que je m'aperçois, c'est qu'on est dans la stupidité, mais la stupidité, puis c'est justement ce que tu voulais nous parler.
Ouais.
J'ai hâte déjà au prochain mandat de 4 ans, lorsque le mandat du président qui sera choisi sera terminé.
Terminé, oui. Parce qu'on sait que si c'est Trump, ben, il va être là seulement une année, pas une année, mais un mandat.
Exact.
Il ne peut pas faire 2 mandats. Puis l'autre, ben, on ne sait pas s'il va se rendre. Hein? Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas un choix extraordinaire. Mais là où je trouve que la stupidité atteint son paroxysme actuellement dans la politique américaine, en tout cas dans l'élection qui s'en vient, c'est que t'as d'un côté, bon, OK, t'as d'un côté quelqu'un qui est à la présidence actuellement, oui, qui commence à être âgé, mais tu sais, il n'est pas tout seul là-dedans, il y a des conseillers autour. L'autre bord, je le mets de côté pour l'instant, l'autre bord, pas juste le gars qui va représenter le parti, mais le parti. Hier, ils ont déposé une autre mention pour sortir le chef, le gars qui... Le, Tu sais, le président de l'Assemblée. Ouais. Fait deux fois là, qu'ils font ça dans le même... Dans... Fait que c'est la première fois à vie que ça se faisait la première fois. Il y a quoi, 6 mois de ça. Puis là, ils réessayent encore de mettre leur propre gars. C'est un des leurs là, qui est en avant. Mm-hmm. Fait qu'eux autres sont tous... Le parti est sur le cul total. T'as les pro-Trump, t'as les non-pro-Trump, puis eux autres, ils parlent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que si Trump est élu, ils vont être dans poubelles. T'sais, ils s'occuperont pas d'eux autres, puis ils vont les blaster. Puis ça revient toujours à la même affaire. T'as la stupidité d'une personne, Donald Trump, mais patin, c'est les 83 millions qui ont voté pour lui pareil. 84 millions. Eux autres, c'est quoi leur critique de problème à ce moment-là?
Je m'en remets à la démocratie américaine. Là, on a deux choix. On a un qui est beaucoup trop vieux. En fait, non. On a un qui, au niveau de sa santé psychologique et sa santé physique, il laisse craindre le pire.
Il laisse craindre ça.
Puis on a un autre qui a fait un mandat de 4 ans, qui a quand même bien été, mais qui est un extrémiste dans ses propos.
Tout à fait.
Parfois, quand on pense que c'est un être qui est rustre, tu sais, qui est vraiment intense, tu sais, je ne sais pas, c'est le gars qui a arrêté des guerres en passant. Mmh, là, ouais, pour ouais. ceux qui l'oublient, il a arrêté des guerres. Kim Jong-un a dit je vais arrêter de tirer des missiles dans les airs parce que ça se peut que le fou à l'autre bout décide de m'anéantir. Puis finalement, Donald Trump a été rencontré la Corée du Nord. Puis Poutine, c'est la même chose, il était tranquille pendant 4 ans. T'sais, à quoi s'attendre du prochain mandat? Parce que visiblement, ça se peut que ce soit Trump qui soit réélu. Puis quel signal que les Américains envoient aux politiciens américain, s'ils mettent Donald Trump, ça prendrait peut-être des analystes pour nous l'expliquer, mais moi, je pense que la moitié des Américains qui votent pour Donald Trump, c'est pas tous des imbéciles.
Mm-hmm. Non, sauf que ceux qu'on voit répondre aux questionnaires dans la rue, ils le sont tous.
Mais là, je veux dire, c'est comme Guy Nantel.
C'est exactement, tout à fait. Mais en fait, je pense que le plus gros risque que courent les États-Unis, puis on sait que quand ça se passe aux États-Unis, des fois, ça a des répercussions sur nous autres. Le plus grand risque, c'est justement qu'ils anéantissent la démocratie si Trump est réélu. Parce que c'est pas un gars qui est dans la... C'est un one-man show. Moi, je pense que c'est un dictateur. Ça veut pas dire que toutes ses politiques sont folles.
Mais en quoi il pourrait être différent dans son dernier mandat?
Je pense que... Parce qu'il veut, il l'a dit lui-même, il veut être dans la vengeance, il veut se venger de ceux qui ont parlé contre lui. Puis tout le monde qui a engagé, tu regardes la liste, là, ils sont tous parfaits quand ils engagent, puis ils sont tous contre quand ils parlent un peu contre lui, puis ils ont tous mis à part. Ouais. Ouais, t'as la même affaire.
Parce que, tu sais, moi, je t'écoute, j'ai été ton auditeur, j'ai été ton lecteur aussi, puis j'ai le bonheur de t'avoir en chronique. Mais, tu sais, puis tu m'as appris plein de choses. Puis parmi les choses que tu m'as appris, c'est, tu sais, les paroles, c'est quelque chose, mais ce qu'il faut que tu regardes, c'est ce que la personne va
faire. Tout à fait, les résultats.
Puis dans le cas de Trump, j'ai l'impression que les gens ont une tendance à ne pas regarder ce qu'il a fait pendant son 4 ans de mandat, mais plus à donner de l'importance sur ce qu'il dit. Mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'il en dit des crises de niaiserie, là. Il dit des affaires intelligentes des fois, mais il dit des maudites niaiseries qui n'ont pas de bon sens.
Et des mensonges, il passe son temps à mentir. Comme bien d'autres politiciens.
Tu as raison, tu sais, ses amis qui ont embauché, finalement, c'est devenu maintenant ses ennemis, puis on se pose toujours des questions là-dessus. Mais...
Pas un ou deux, là.
C'est ça.
Il y en a des centaines.
Mais moi, ce que je retiens du passage de Jean Nadeau dans ma vie, c'est regarder ce qu'il fait plutôt que ce qu'il dit.
Je comprends. Mais lui, ce qui joue contre lui, c'est que ce qu'il dit nous fait mettre de côté les bonnes choses qu'il a faites. Tu sais, il en a fait des bonnes choses. Il n'a pas toujours été habile à les faire, mais il en a fait des bonnes choses. Mais il est tellement imbu de lui-même, puis il fait tellement de fautes graves que ça vient cacher peut-être les bonnes choses qu'il a faites. Ouais.
T'as-tu l'impression que le personnage qu'il a mis en place lui nuit parfois?
C'est exactement ce que je suis en train de dire. Son personnage nuit à ses politiques ou à ce qu'il veut faire. C'est ça c'est pour ça qu'il y a tant de personnes, les indécis, là, c'est à cause ou ceux qui ont voté la dernière fois pour lui puis qui hésitent ou qui ont décidé de ne pas voter pour lui, parce que sa personnalité très, très narcissique joue contre lui envers ces gens-là.
Ouais. Parce que, tu sais, ces entreprises ont été montées sur Donald Trump. Il est son propre produit. Mm-hmm. Je veux dire, t'es dans un de ses hôtels, tu peux acheter une statue de lui en cire.
Ben oui, son nom est sa porte.
Oui, mais tu peux acheter une statue du propriétaire de l'hôtel en cire. Oui. C'est n'importe quoi, mais bref, j'ai eu hâte de voir le choix des Américains. On aura à vivre pendant 4 ans avec le choix des Américains, mais une chose est sûre, c'est que j'ai hâte qu'il y ait des gens de 40, 50, 60 ans arrivent en politique américaine et soient susceptibles peut-être d'être le prochain président des États-Unis.
On les voit pas. On ne sait pas c'est qui. Tu sais, quand ils nous sont arrivés, là, les démocrates, avec la course à la chefferie, puis ils nous sont arrivés avec Barack Obama, qui apparemment, c'est une star montante. Jamais de ma vie, j'avais entendu parler de ce gars-là.
Il avait 40 ans, c'est un avocat.
Non, mais c'est un brillant, tout le monde dit, c'est un extraordinaire. Oui, il va être président un jour. Attends un peu, j'ai jamais entendu parler de ce gars-là, moi. Jamais. Mais il y en a peut-être un qui se cache, un ou une qui se cache à quelque part, mais on les voit pas, là.
On va le souhaiter pour les Américains. Ouais. Tu fais beaucoup de conférences, parfois même tu assistes à des conférences. Tu rencontres-tu des fois des adeptes des conférenciers?
J'en ai même rencontré, justement, quand j'étais en France, j'ai eu une longue discussion. Ben, c'était à la fin complètement de la retraite. Il y a quelqu'un qui m'accroche, disant, on peut-tu jaser, toi puis moi? Puis il est, lui, dans le... Ben, ce que j'appelle là, le bain tourbillon du pareil au même. Là. Toutes les bulles qui sont toutes pareilles. Il est dans l'approche conventionnelle du développement personnel. Puis il me dit, ben, tu sais, des fois, j'entends ce que tu dis, puis ça vient me chercher, ça me fait réfléchir. Ben, j'ai dit juste ça, là. Si ça te fait réfléchir, j'ai fait ma job. Mais il dit, c'est très à l'encontre de plusieurs des choses qu'on entend depuis toujours. Mais est-ce que c'est parce que tu les entends depuis toujours qui sont vraies? Ça fait-tu du sens? À un moment donné, le monde, arrêtez-vous. Pourquoi 80 % des gens haïssent les conférenciers? C'est pour le message qui est véhiculé actuellement, qui, moi, je trouve, fait pas de bon sens. Ça fait pas de bon sens. Les gens n'aiment pas... Parce qu'on passe pour des bullshitters, pour des pelleteux de nuages. N'importe qui, parce que t'as une belle histoire du passé, t'as une histoire à raconter, peut devenir conférencier. Putain, il faut que ça fasse du sens à un moment donné. Il faut que ça donne. Puis si ça fait pas de sens, arrêtez de suivre ce conférencier-là ou cette conférencière-là ou de lire ce type de livre-là, puis essayez d'autres choses. Si ça fonctionne, parfait, continuez. Si ça fonctionne, là, de vous faire flatter dans le sens du poil, puis d'écouter Yannick, puis de boire des tisanes de testicules de babouin en envoyant ça dans l'univers, en espérant que ça va se réaliser parce que vous avez envoyé vos vibrations dans l'univers, correct, continuez. Mais si ça marche pas, ben, faites d'autres choses.
Ouais, la flûte de pan m'a jamais arrangé ma vie, mais je peux comprendre les bienfaits que certaines personnes vivent quand ils vont rencontrer un conférencier. Ça les fait réfléchir et tout ça, mais ce que moi j'ai retenu du week-end qu'on a fait avec toi, le fameux week-end silencieux, c'est que tu t'assures que ce que tu donnes comme matière, oui, il faut qu'il y ait matière à réflexion, bien entendu, mais il faut qu'il y ait... faut que tu changes quelque chose. Ben, si tu réfléchis et tu dis, ah, ben finalement, je n'étais pas vraiment axé sur ce que je voulais faire, mais avec les réflexions que j'ai faites, j'aimerais plus devenir la personne que je voulais être, bien, il faut qu'il y ait un changement. C'est pas normal que des gens aillent là pendant une fin de semaine, payent un bon montant, puis qu'après, le mercredi, ils ne ressentent plus les effets de la conférence dans la fin de semaine.
Exactement. Écoute, tu vas à une conférence, tu es assis là pendant une heure et demie, puis tu as un vox pop après, puis qu'est-ce que vous avez retenu? Quelle sorte de soirée avez-vous passé? Et la personne sort de là dans le bien-être. C'était le fun, on a ri, on s'est fait des câlins, on a dansé, on a ri. OK, c'est correct, ça fait partie d'une conférence parce qu'à quelque part, il y a un show à donner. Mais qu'est-ce qui est venu te chercher que tu vas aller réfléchir à et qui va peut-être changer quelque chose dans ta vie? Si tu as passé une heure et demie à te faire dire exactement ce que tu te fais dire depuis des années, juste différemment, avec un numéro de danse à claquettes, tu vas aller réfléchir à quoi? À rien. Si tu réfléchis à rien, tu continues comme t'es. Fait que si on va voir j'ai pas de problème, j'en ai déjà vu des conférences où j'ai trouvé ça super, j'ai passé une belle soirée, mais quand je suis revenu à la maison ou le lendemain matin, je suis retombé dans mon to-do list puis j'ai rien changé à ma vie, j'ai juste passé une bonne soirée, comme je passe une bonne soirée quand je vais voir Fred Pellerin. On devient à ce moment-là uniquement des entertainers pendant une soirée de temps. Mais si tu vas à une conférence puis j'ai jamais vu ça comme ça. Il me fait chier. Ouais. Vous êtes gros par choix. Oh, Christ, il m'écœure, lui. Es-tu en train de me dire que je suis gros par choix? Oui, parce que si tu ne fais pas partie du 2% de la population qui a un problème génétique, tu es dans le 98% qui reste puis qui met de la marde dans son panier d'épicerie, qui passe 30 heures par semaine à regarder les autres vivre à la télé puis qui va encore manger chez McDo. Ça se peut que mercredi prochain, tu ne l'aies pas oublié, celle-là. Mm. Ça se peut que vendredi prochain, tu ne l'aies pas oublié pour au lieu de t'asseoir devant ta 30e heure de télé, que tu te lèves le derrière, tu dis Chris Nadeau, il m'a dit d'aller prendre une marche.
Tu sais que c'est avec toi que j'ai découvert que je me dopais.
Ouh.
Je savais pas que je me dopais, moi. Sérieusement, je ne savais pas. Je me dopais, peut-être pour relaxer au départ, mais je me dopais. Pendant cette fin de semaine-là, j'ai pas fait de Netflix. Puis ça m'a beaucoup manqué. Pendant cette fin de semaine-là, j'essayais le moins possible d'être sur mon cellulaire, puis ça m'a beaucoup manqué. Mais bon Dieu, que mes fins de semaine, j'avais plus de temps à faire mes affaires. Les heures passaient plus lentement. J'avais l'impression que je voyais ma vie passer plutôt que de ne pas voir justement mes fins de semaine passer. Puis j'étais chez nous au retour de cette fameuse fin de semaine silencieuse-là. Puis la première affaire que j'ai faite le soir, tu sais, moi, je travaille avec Internet, fait que j'ai pas le choix de faire une couple d'heures par jour sur Internet. Mais le soir, il n'y a rien qui m'empêche de me décrocher d'Internet pendant 3-4 heures. Puis depuis cette fin de semaine silencieuse-là que j'ai faite, puis ce qui m'a rentré dans la tête aussi, c'est que je me suis rendu compte que quand j'avais rien à faire, je partais à Netflix. Parce que j'avais le goût d'écouter un bon film. C'était juste par habitude, pour relaxer. Je me pars à Netflix. C'est quoi la série? On s'en sert qu'on part ça. J'ai le goût de boire du café. Je prends un verre de vin. Sérieux, on dirait que j'avais besoin tout le temps de quelque chose pour me sentir bien. Puis là, j'ai tout retiré ça, à part peut-être le café le matin. Le café, je le garde le matin. J'ai tout retiré ça, puis bon Dieu, ma vie est meilleure depuis ce temps-là.
Tu avais le réflexe de remplir ton temps au lieu de vivre ton temps.
C'est ça. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait fait faire un exercice, Jean. C'était pas avec toi, c'était une de mes amies qui est éducatrice spécialisée. Elle avait dit, Yann, passe donc 15 minutes chez vous sur ton divan à rien faire. Après toi.
T'es pas resté là très bien, non.
Ça a pris 3 minutes que je paniquais.
Et c'est comme ça que j'ai découvert l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Moi, bon, je te donne pas dans une bonne période de ma vie, parce que là, nous, on fait la retraite là-bas pendant 3 jours, puis on a des activités, on a des ateliers, tout ça, mais tu peux aller là puis rien faire. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert ça. Rémi Tremblay, qui est un autre conférencier, le petit Bouddha du Québec, m'avait dit, Jean, parce qu'après mon émission de radio, c'était mon invité, puis il m'a dit, Jean, va donc passer une fin de semaine à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. J'ai dit, c'est quoi ça? Ben, il dit, tu vois là, t'es en silence, Rémi, regarde-moi la face. Moi, là, tu me demandes à moi d'être en silence. Écoute, finalement, je suis allé, et quand je suis arrivé sur place, sur l'heure du midi, le vendredi, j'ai fait un live. Je faisais plein de lives dans ce temps-là. Dans ce temps-là, les lives attiraient du monde. Je fais un live, je dis, écoutez, bien, je suis à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, je sais pas trop ce que je fais ici. Puis, écoute, le lendemain matin, à 10h, je suis allé effacer le live. Parce que déjà, j'avais senti que le silence de l'endroit venait, je sais pas, il y avait quelque chose qui était thérapeutique pour moi là-dedans. Puis, effectivement, ça a créé des chocs envers moi, comme ça a créé des chocs de toi de ne pas aller sur Netflix pendant que tu étais là-bas, ou d'aller sur Twitter ou peu importe les réseaux sociaux sur lesquels tu vas. Et c'est quand on a un choc, c'est quand il y a quelque chose qui nous dérange qu'on se met à réfléchir puis qu'on change peut-être quelque chose. Donc, si tu restes chez vous, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va... Mais ça devient une discipline que tu dois t'imposer, alors que quand tu vas dans une place comme l'abbaye, elle est imposée par le site. Il faut que tu sois en silence. Rémi m'avait dit, Jean, apprends à bien ne rien faire. J'ai dit, t'as perdu la raison. Il est malade. Bien ne rien faire. Puis c'est dur en crif. Ouais. Sérieux, c'est tough. Hein, vous autres, vous aviez des ateliers, vous aviez des devoirs, tout ça, mais... Quand tu y vas tout seul et tu n'as rien à faire, j'y avais dit, t'as-tu un petit livre, t'as-tu un livre à me proposer? Il dit non, Jean, va pas lire. Quand tu lis, ton esprit s'en va dans l'aventure du livre.
Exact.
Non, reste dans ton aventure à toi pendant un week-end. Je te demande pas de faire ça pendant 6 mois. Essaye ça pendant un week-end. Tu te retrouves tout seul avec toi-même. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'est quand j'ai monté le Kilimanjaro. T'es tout seul en tabarslac.
Le dimanche matin, vous m'avez fait lever à quoi? 4h
du matin?
4h, 4h30, puis vous m'avez pas dit qu'on allait se recoucher, après.
C'est vrai, c'est...
Moi, je me lève à 4h30, je m'en vais à la cafétéria, je me tape 2-3 cafés et 4h30. Puis finalement, sans dire c'est quoi l'activité, punch, je reviens, puis OK, ça durait comme une demi-heure, 40 minutes. Moi, je me suis bourré de café. Tu sais quoi? Les heures, les minutes et les heures qui ont suivi, ça a été là ma prise de conscience.
Ouais.
J'ai fait le tour de l'abbaye. Je ne sais pas si tu te souviens de l'ambiance qu'il y avait, mais il faisait extrêmement noir.
Oui.
Il faisait chaud.
4h30 du matin.
Ce qui faisait en sorte que la neige était froide, l'air était chaud. Fait que ça faisait comme une brume, une brume autour de l'abbaye. C'était de toute beauté. J'ai fait le tour de l'abbaye. Après ça, je suis rentré dans l'abbaye. Puis j'entendais chanter. Puis je ressentais une certaine chaleur quand je suis rentré dans l'abbaye. Fait que je me disais, voyons, c'est ce qui se passe ici. Puis j'étais allé m'asseoir. Puis j'écoutais les frères, les moines.
Les moines.
Les moines
du matin à 5 heures.
Faire leur office. Puis je me suis dit, OK, c'est ça leur vie. Puis j'étais là, j'écoutais, je trouvais ça beau. Après ça, je suis monté à ma chambre. Puis pendant 2 heures, 3 heures, j'ai touché à rien, puis j'ai pensé à plein d'affaires. Je me suis perdu dans mes pensées. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est là, des fois, où la créativité que t'as pas, parce que tu te gèles constamment sur les réseaux sociaux.
Ben oui, t'as toujours quelque chose d'autre à penser.
Ben, c'est là que tu penses à tes affaires. OK, ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire cette semaine pour améliorer telle affaire? La relation avec mes gars, parce que moi, j'ai 2 gars, c'est vraiment une bonne relation? Je peux-tu améliorer certains trucs? Qu'est-ce que je voudrais faire?
Ce qui fait le plus plaisir de ce que tu dis là comme témoignage, si tu veux, c'est que t'es un gars. Parce que ça, habituellement, c'est réservé aux filles. Tu sais, l'industrie du développement personnel, là, c'est 90% dans la salle, c'est des femmes, puis 90% sur scène, c'est des gars. Il y a de plus en plus de femmes qui sont conférencières, mais habituellement, le public cible, là, c'est la femme. Pourquoi c'est plus la femme? Parce que la femme s'arrête plus à ça. Mais la femme, as-tu plus à s'arrêter, à réfléchir à sa vie que les hommes? Ben non. Les drames qu'on voit partout, là, les drames familiaux, là, le gars qui tue ses 3 enfants, il tue sa femme, puis il se suicide après... 90% des fois, c'est des hommes. Puis nous, il ne faudrait pas qu'on s'arrête à faire ça. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête à penser à notre vie. Puis toi, t'es un gars de radio, t'es un gars public. Puis à 4h30 du matin, t'es en train de te promener autour d'une abbaye. Puis non, mais pensez à ça, là.
Ah ouais,
ceux qui t'écoutent, là, Yannick, ceux qui ont... Ben, tous tes auditeurs, là, Yannick Marceau, à 4h30 du matin, en train de se promener autour d'une abbaye un dimanche matin.
Ouais.
Non, c'est impensable, là.
Non,
puis qu'après ça, pendant 3 heures de temps, tu continues à penser à tes affaires au lieu d'aller sur les réseaux sociaux.
Vous m'avez fait vivre ça, vous le saviez pas, là. Je te le raconte, puis tu l'apprends au fur et à mesure, mais si je m'étais pas donné la permission de faire ce type d'activité-là, qui est pas nécessairement dans mon quotidien, mmh, d'aller voir, mmh, des conférences, je te l'ai dit, ouais, moi, le premier conférencier que j'ai connu, c'est M. Chaput,
ouais,
quand il est venu à mon émission dans le show de l'époque. J'avais passé vraiment du bon temps avec M. Chaput. Puis par la suite, ben, j'écoutais des gars comme toi. Je lisais des livres, les livres que toi, t'avais écrits ou d'autres livres que je trouvais inspirants. Puis ça m'amenait sur d'autres pistes de solutions, des, mm-hmm, fois, dans ma propre vie. T'sais. Pourquoi lire si toi, tu changes rien après,
exactement,
la lecture
puis
de ce livre?
Pensez pas que je lis pas, là. Ouais. Pas parce que tu montes sur une scène que toi, t'es parfait. T'as,
ben,
aucun,
non,
problème.
Ben,
là. J'ai un paquet de problèmes, pareil comme tout le monde. Là. Puis moi aussi, je cherche des solutions un peu partout. Je les cherche juste pas tout le temps dans l'axe dans lequel je suis parce que ben, j'y crois à ce que je dis. Je n'ai pas besoin d'aller renforcer ce à quoi je crois. Je vais aller voir ce que d'autres croient. Puis tu sais, Régis Lachance qui était avec nous quand il était venu à l'émission, puis c'est lui qui co-anime la retraite avec moi. Régis, lui, une de ses forces, il est dans les énergies, l'énergie. Tu sais, des fois, Régis, je file pas. Il dit, Jean, mettons, ah, Régis, je file pas, j'ai mal à la tête, j'ai une grippe de gars. Hey, Jean, veux-tu que je te fasse un soin? Régis, il est à Brossard, là. Veux-tu que je te fasse un soin à distance?
T'es pas ce style-là, vraiment.
Ben, je suis obligé de te dire que, d'après moi, rendu au Madrid, ton soin, là, il marche, il se rendra pas, Batens, là, tu sais. Mais j'ai dit oui, pareil, parce que lui, il croit à ça.
Tu l'as
puis je me dis, j'ai mal à la tête, d'un coup que ça marche. Mais chacun ses croyances, puis choisissez les croyances que vous voulez. Voyez si ça fonctionne. Si ça fonctionne, allez avec ça. Si ça fonctionne pas, Batens, faites d'autres choses.
T'as trouvé où ta motivation, Jean-Ado?
La trouve, c'est une très bonne question parce que c'est un des sujets principaux de l'industrie du développement personnel. Où je la trouve à tous les matins en me disant la conférence de motivation que j'ai fini par créer. Parce que les gens me disent, t'es un conférencier, t'es un motivateur, toi. Écoute, avant ça, quand on me présentait, accueillons notre conférencier d'aujourd'hui, Jean Nadeau, blablabla, il insiste pour pas qu'on le présente comme un motivateur. Puis là, je passais à peu près 5 minutes du début de ma conférence à expliquer pourquoi je voulais pas être qualifié d'un motivateur. Mais là, je vieillis, puis je deviens de plus en plus paresseux, fait que j'ai décidé d'en inventer une, d'en écrire une conférence de motivation, puis je l'ai déjà donnée à ton émission, puis je l'ai donnée aussi à la retraite. Pour celles et ceux là, qui en veulent absolument une conférence de motivation, et pour répondre à ta question, c'est cette conférence de motivation-là qui me motive à tous les jours à me lever le derrière, m'arracher fil d'araignée dans tes 2 fêtes, passer au buffet, puis de me donner la vie la plus merveilleuse que je peux avoir. La conférence de motivation, c'est la suivante. 3 mots. Vous allez mourir.
C'est fini?
That's it. Avez-vous besoin de passer 1h30 devant un conférencier, oh my God, motivateur, ou de lire 300 pages dans un livre pour vous motiver à plus que de vous rappeler que vous allez mourir? Il y a une date de fin. Levez-vous le derrière et allez manger du steak pendant que vous avez des dents. Qu'est-ce qui me motive à tous les matins? C'est de savoir que je vais mourir.
Ouais. On en prend-tu plus conscience au fur et à mesure qu'on vieillit? T'sais, au fur et à mesure qu'on vieillit...
Qu'on se rapproche d'eux.
Moi, j'ai une de mes anciennes élèves, Véronique Lévesque, qui est décédée à 28 ans. Mm-hmm. Elle attendait un enfant. Malheureusement, elle a fait un anévrisme au cerveau. Puis là, tu sais, là, je prends conscience que moi aussi, ça peut m'arriver. Mm-hmm. J'ai eu de la peine énormément parce que c'était quelqu'un que j'appréciais, tu sais. Puis j'aimais ça discuter avec cette personne-là. Puis d'apprendre qu'elle est morte, qu'elle n'a pas connu son enfant et tout ça. Je me dis, tabarouette, quelle leçon de vie que ça laisse aux vivants autour.
Mais
ça se peut que ça se termine là. Puis plus on vieillit, plus on a des drames autour de nous autres. C'est peut-être pour ça qu'on en prend plus conscience.
Peut-être. Mais
parce qu'à 20 ans, là, sérieux, moi, je pensais qu'il me restait comme 100 ans encore
à
vivre.
Oui. Peut-être que c'est une question qui vient avec l'âge parce qu'inévitablement, on se rapproche de l'inévitable. Mais pourquoi attendre jusque-là? Tu sais, je dînais cette semaine, tu connais sûrement François Guy Thivierge.
Oui.
Je dînais avec François Guy en début de semaine, puis on parlait de, bon, le drame qu'il vit actuellement, sa blonde qui est décédée et tout ça. Puis, tu sais, j'attendais pas à ça, là. Tu sais, la fille, là, dans la fleur de l'âge, belle fille, active, la femme de sa vie.
Les deux avaient des projets.
Il y avait des projets ensemble et tout. Ouais. Puis, tu sais, je rentrerai pas dans le détail de ça. Peut-être qu'un jour, on en parlera, François Guy et moi, là, en onde, là, mais il s'attendait pas à ça, lui-là. Là.
Non.
Puis elle non plus. Fait que manger du steak pendant que vous avez des dents. Ma blonde, il y a 4 ans, on lui annonce qu'elle a un cancer. C'est pas un cancer pour lequel, tu sais, ma fameuse phrase, « Votre vie est de votre faute ». Si ma blonde avait fumé 4 paquets de cigarettes par jour puis on lui avait annoncé qu'elle avait un cancer du poumon, tu sais, j'aurais pas voulu être plate pour elle, mais à quelque part, fille, c'était écrit assez gros sur le paquet. Si vous consommez ce produit, vous allez mourir. Prends ta part de responsabilité. Mais c'est pas le type...
Mais elle fumait pas.
Non, pas du tout. Puis le type de cancer, jamais qu'elle aurait pu voir ça venir. C'est pas par mauvaise habitude et tout ça. Mais là, ça y arrive, ça, à 50 ans. Tabarnache, à 50 ans, là, tu penses pas. Oui, t'es plus proche de la fin que du début, mais tu sais, il te reste peut-être 30 ans, t'es rendu à 5 ans. Mais pas là. T'sais, tu te fais dire que t'as un cancer, pas là.
Ben, c'est cruel.
C'est cruel. Puis, elle passe à travers les premiers traitements, ça semble fonctionner, ça tient. 3 ans plus tard, pouf, elle repasse dans le scan. Madame, votre cancer est revenu, puis c'est vraiment pas une bonne nouvelle.
Un autre combat.
Un autre combat qui repart, un autre type de traitement qui repart. T'es rendu à 52 ans. Ta barcelaque, elle se lève à tous les matins, encore aujourd'hui, pas le lendemain qu'elle l'apprend la première fois, pas le lendemain qu'elle l'a appris la deuxième fois, mais à un moment donné, ma fameuse phrase « Votre vie est de votre faute », elle comprend qu'elle n'a pas... Il y a des exceptions à cette phrase-là. Oui, il y a des exceptions. Elle en est une exception. C'est pas de sa faute le cancer qu'elle a eu. Sa façon d'y réagir, ça lui appartient. Comme je te dis, François Guy, pas le lendemain qu'elle apprend le décès de sa blonde. Ma blonde, pas le lendemain qu'elle apprend que son cancer 1, cancer 2 revient. Mais à un moment donné, tu te reprends en main, la résilience. Tu te reprends en main puis tu dis, OK, j'en ai un autre aujourd'hui. Ouh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Urgence de vivre. Let's go. Là, on va manger du steak pendant qu'on a des dents. Pourquoi attendre que ça nous arrive en pleine face?
C'est des événements dramatiques. Tu sais, mais souvent, je parle avec des amis qui n'ont pas la chance de faire un métier qui leur vont à merveille. Mm-hmm. Okay? Nous autres, moi, je suis dans le plaisir. Ouais. Moi, je m'amuse, j'ai du fun, je suis dans la découverte. Je reçois des gars comme toi. Des fois, je reçois des astronautes comme Chris Hadfield. Des fois, je reçois des psychologues. Puis, tu sais, j'ai tout le temps du plaisir avec ma gang du midi. Des fois, on dit n'importe quoi. On s'amuse, on a du fun, on rit. Fait que c'est dur, des fois, de jaser avec quelqu'un qui travaille à la chaîne constamment puis qui dit « Yann, moi, je trippe pas tant que ça dans ma vie. Mm-hmm. » Et j'ai dit « Parfait, mais tu trippes pas tant que ça dans ta vie, à ta job, mais ta job te permet quoi à l'extérieur? T'es-tu capable d'avoir du temps de qualité avec tes enfants? T'es-tu capable de leur mettre un toit? T'es-tu capable d'avoir la voiture pour aller les chercher, pour les transporter? T'es-tu capable de payer leur inscription au hockey? » La motivation, tu peux la trouver à l'extérieur ton emploi. Oui. Si tu fais du travail en chaîne, je comprends qu'à un moment donné, tu te dis, il me semble que des fois, je plafonne dans ma tête. Je le comprends. Mais si tu sais pourquoi tu te lèves chaque matin pour tes enfants, puis tu te le rappelles, mais on va passer une super belle fête de semaine, on s'en va en camping, ça me prend 300$ pour passer ma journée samedi en camping, ben cette semaine, je ramasse cet argent-là pour ça. C'est comme ça que je me motive.
Tu parlais de Jean-Marc Chaput, on avait fait une conférence, lui et moi, les deux politiquement incorrects du Québec.
Sacrifice, Jean!
Sacrifice, le grand! Et puis on avait préparé ça ensemble, j'avais été chez eux dans le salon, puis on avait préparé nos affaires, pour ça. Puis à un moment donné, il était venu une couple de fois à mon émission de radio, puis j'ai demandé, Jean-Marc, quel métier n'aurais-tu pas fait? Et là, il réfléchit un peu à ça. Il dit, je pense que j'aurais pas aimé ça, moi, faire ça. Testeur de chaleur d'asphalte. J'ai dit quoi? J'ai dit, non. Au ministère du Transport, il y a un gars qui a un bâton puis un pic. Puis lui, là, il se promène sur les autoroutes du Québec puis il teste la chaleur de l'asphalte pour savoir est-ce que la composante de cet asphalte-là est correcte. Bon, ça va-tu passer les hivers? Il dit, moi, j'aurais pas fait ça, moi, un testeur de... Mais il dit, sais-tu quoi, ce gars-là, D'après moi, il n'a pas les mêmes problèmes que moi. Il dit, moi, là, faut que, pour gagner ma vie, il faut que je fasse de la représentation. Puis il dit, je suis un solopreneur, puis cette, ma job m'habite 24 heures sur 24, 365 jours par année. D'après moi, lui, au salaire qu'il fait, là, puis surtout à la job qu'il fait, là, à 5 heures, là, quand il a fini de tester son dernier asphalte, là, il ne ramène pas ça à la maison. Fait que lui, il a peut-être la liberté de ne pas ramener ses problèmes à la maison. Quel problème tu veux ramener à la maison? Puis chérie, ah, j'ai une grosse journée, chérie, tu sais pas ce qui m'est arrivé. L'asphalte à Drummondville était à 25 au lieu de 28. Ça a pas de... Non. Okay. Toi, tu as la liberté à 5 heures de ne pas ramener tes problèmes à la maison, exact. Alors que celui qui fait 350 000 par année, puis qu'il faut qu'il fasse... Lui, il les ramène peut-être à la maison. Fait que c'est trouver... Tu sais, cesser de chercher l'équilibre parfait, c'est un mythe de dire « je vais trouver l'équilibre parfait dans ma vie ». Ça marche pas. Chercher l'harmonie dans le déséquilibre. Mettons quelqu'un, là, que c'est un comptable, dans la période des impôts, là, oublie ça, fait, on n'ira pas en voyage. Ah, chérie, on n'ira pas en voyage. Ça se peut qu'on fasse pas l'amour souvent non plus, parce qu'à l'heure que je vais me coucher, je veux dormir. Fait que là, il y a un déséquilibre dans les pointes de tarte.
À ton âge, tu dis « ça se peut que je fasse pas l'amour pas parce
moi.
Que je veux dormir ».
Pas moi. Non, je parle pas de moi. Là.
Non, tu parles des autres.
Non, je parle des autres. Ben, je suis pas comptable, mais le ou la comptable qui est en période des impôts, il y a un déséquilibre dans la période des impôts. Trouve ton harmonie dans ce déséquilibre-là. Cessez de chercher l'équilibre parfait. Il n'existe pas. Cherchez l'harmonie dans ce que vous avez comme vie. Puis, bâtin, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, t'aimes pas ta job, change de job. T'aimes pas ton conjoint, t'es plus heureux, change de conjoint. Ouais. T'aimes pas tes... change d'amis. T'aimes pas ta relation avec tes enfants, change pas d'enfant, mais passe peut-être un petit peu plus de temps avec eux autres. Il y a une étude aux États-Unis qui avait démontré que le parent moyen passe en moyenne... Écoute, je pense que c'était 13. 13 minutes par semaine à avoir des conversations significatives avec leurs enfants. Et 30 heures devant leur télé, tout juste de vous dire que votre télé est plus importante que vos enfants.
Quand je parlais de dopage tantôt.
Exactement. Fait que si vous n'êtes pas confortable avec la relation que vous avez avec vos enfants, faites quelque chose. Vous n'êtes pas heureux dans votre vie, faites quelque chose. C'est pas quelqu'un qui va venir le faire à votre place. C'est pas un super-héros, puis c'est pas un pompon sur scène ou qui écrit des livres.
Pis c'est de se mettre en mouvement aussi. Parce que très souvent, on dit oh « oui, mais je vais le faire, je vais le faire », mais on prend pas la peine de se mettre en
le
mouvement.
Le mot « essayer », enlevez ça de votre vocabulaire. Faudrait plus que ça existe. Essaye de toucher à ton nez. Tu y touches ou tu y touches pas, bâtin?
Je suis capable.
Bon, mais fais-le.
Je sais, arrêtez
d'essayer,
puis fais-le. Flexible, mais je sais. Mais, tu sais, si t'es à 1000 mètres de ton objectif, si aujourd'hui t'en fais 3 mètres, t'es toujours bien plus proche de ton objectif que hier.
T'sais. Tout à fait.
Mais la motivation, parce que je trouvais que c'est un sujet le fun que tu m'avais mis dans les possibilités de sujet, tu sais, faut la trouver. Puis moi, je la trouve justement. Tu sais, ma job, c'est du plaisir. Fait que, tu sais, c'est sûr que je travaille pas à chaîne, mais je me dis, tu sais, des fois, quand il y a des journées qui ressemblent plus à d'autres, qui sont un peu plus particulières, je me dis, ben, tu sais quoi, ça me permet de passer mes week-ends avec mes gars. Puis s'ils veulent aller aux galeries de la capitale, aller sur, tu sais, les petits trucs mobiles, là, comme les petites motocross, mais avec des animaux, ben, ils vont y aller parce que je vais avoir l'argent pour, parce que j'ai fait ma job cette semaine. Je la trouve ailleurs parfois, puis. Je trouve que c'est une belle façon de se motiver.
Et là, tu m'amènes sur un sujet. Justement, moi, mon sujet, c'est le sens des responsabilités. Quand je dis « votre vie est de votre faute », on parle du sens des responsabilités. Une de vos principales motivations devrait être de respecter vos engagements et de prendre vos responsabilités. Tu as une responsabilité envers ta famille pour réussir à payer la maison, réussir à payer des vacances, réussir à payer des petits jeux avec des petits animaux comme tu viens de donner comme exemple. C'en est une motivation, ça aussi.
Ben oui, c'est ça.
T'es-tu obligé de t'aimer ta job? Aimer votre job 365 jours par année, bullshit, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'aime pas ma job, moi. Ma job de conférencier, là, j'aime pas ça.
T'aimes pas ça?
Non.
Mais voyons donc.
Moi, te le dire pourquoi. C'est pas d'être conférencier que j'aime pas, c'est la job. Et je t'explique pourquoi. Les gens pensent que d'être conférencier, c'est de monter sur scène pendant 1h30 de temps.
C'est juste ça.
Nous autres, on est parachutés sur une scène, tabarslac. Non. Faut que tu trouves des clients, faut que tu les appelles, faut que tu te fasses raccrocher au nez 100 fois avant que quelqu'un dise « OK, c'est quoi votre conférence à vous? Vous chargez combien? Trop cher, on passe à un autre. » Fait qu'il y a toute cette prospection-là. Une fois que tu as une entente, faut que tu fasses ton contrat, faut que tu prépares ton voyage, prends tes billets d'avion, passe à la sécurité, t'arrives à un taxi qui est marabout, t'es supposé avoir une étoile, un hôtel 4 étoiles, tu te ramasses dans un 2 étoiles. Le lendemain matin, il faut que tu te lèves à 5 heures pour aller monter ta table avec tous tes livres. Puis après ça, il faut que tu montes sur scène pour faire cette job-là. Le monde pense... Moi, là, c'est 20% de ma job monter sur scène. Le 80% avant, puis après, là...
Mais je ne le vois pas.
Christique que j'haïs ça. Ah, j'haïs ça pour mourir. J'haïs ça pour mourir. Mais j'aime tellement mon 20% que je suis prêt à vivre avec le 80% que j'aime pas.
C'est là que tu trouves ta motivation.
C'est là que je... C'est... Premièrement, j'aime ça, cette portion-là. Fait que je vais la chercher suffisamment pour endurer le 80 % que j'aime pas. Mais c'est la même affaire pour tout le monde. N'allez pas penser, ouais. Tu viens de le dire. C'est pas vrai qu'à tous les jours, t'es bien, t'es dans le plaisir de ton entrevue. Ça se peut que tu files pas, ça se peut que... Mais en bout de ligne, t'as fait ce que t'avais à faire. Faites ce que vous avez dit que vous feriez, de la façon que vous avez dit que vous le feriez, et au moment que vous avez dit que vous le feriez, vous allez trouver dans les résultats de cet engagement-là votre motivation.
Tu sais, je te fais rentrer un peu dans ma vie privée, mais c'est pas grave, on commence à se connaître.
Détends-toi.
Je vais garder mon linge. J'asais avec un des propriétaires de l'entreprise ici, un des frères Leclerc.
Ouais.
J'asais avec Nick, puis on va organiser quelque chose dans les prochains mois que je peux pas jaser avec les auditeurs là maintenant, puis avec toi. Mais on va organiser quelque chose qui va servir à amasser des fonds pour donner un endroit qu'on juge qu'ils ont besoin d'argent.
Okay.
Et je parlais de ça avec Nick, de cet événement-là qui est un événement pour moi qu'on va, où on va shiner, puis les gens vont dire « Waouh, ils font quand même une super de belle soirée pour les auditeurs. » Puis en plus, ils vont amasser des fonds pour des gens qui en ont besoin. Puis j'ai dit à Nick, puis je le pensais sincèrement, Jean, j'ai dit, tu sais, notre job, on est bien payé. On travaille dans le plaisir la plupart du temps. Mais ce qui est encore plus significatif, c'est de voir que parfois, on peut changer la vie des gens. Puis en ramassant ces fonds-là dans les prochains mois, puis qu'on envoie ça directement à cet organisme-là qui a vraiment besoin d'argent puis qui va servir aux gens qui fréquentent cet organisme-là, j'ai l'impression que ça, c'est ça ma vraie paye.
Mm-hmm.
Puis c'est pas une vocation, mais c'est quelque chose que j'apprécie parce que c'est à l'extérieur de ma job. Pas obligé de le faire, Jean.
Tout à fait, ben
mais
non.
Je vais le faire parce que je me dis, hey, je vais pouvoir dire que j'ai aidé des gens.
La vraie paye n'est
puis
pas
ma
uniquement...
motivation, elle peut être là aussi.
Tout à fait. La motivation au niveau travail n'est pas uniquement dans le chèque de paye. Le chèque de paye nous aide à voir à nos responsabilités, mais il peut y avoir d'autres sources dans notre travail qui nous motivent. De donner des conférences gratuites, moi, parce que ça me faisait plaisir de le faire pour aider les gens. Puis je sais pas, Nick, je sais pas s'il était à l'écoute, mais je te lance l'idée à toi. Remplissez-moi la salle Le Bourgneuf ici en bas. Je donne une conférence gratuite, puis vous prendrez cet argent-là pour la donner à votre association. Puis vous verrez si ça vous tente de faire ça. Mais de faire ça, de consacrer une heure et demie puis c'est pas juste une heure et demie de travail, là, quand je donne une conférence. Je l'ai préparé, cette conférence-là. Il y a du stock derrière ça. Tu sais, Picasso, quand il fait un X rouge à la toile, là, c'est pas juste 30 secondes que ça y a pris pour faire ça. Il y a un art qui a été accumulé pour
moi,
ça.
Moi, j'ai vu l'exposition, là, puis il y a des premiers tableaux de Picasso.
Il a pas passé longtemps.
C'est parce qu'il s'appelle Picasso que ça vaut ça, parce que j'aurais peut-être pu faire la
tout
même affaire. Là.
Mais bon, tout ça pour dire que dans la motivation sur le travail ne se résume pas à l'argent.
Ouais. Ah non, je suis entièrement d'accord avec toi. Hey, on va, avant la pause, on va parler d'attitude.
Ouais.
L'attitude.
Ouais. Quand l'attitude
va... positif? C'est-tu négatif avoir de l'attitude?
Ouais. Avoir une bonne ou une mauvaise attitude. Si je te dis ça, toi, comment réagis-tu à la phrase qu'on entend depuis toujours, depuis des années, « Quand l'attitude va, tout va ». Tu es d'accord avec ça?
Comment je réagis à ça?
Es-tu d'accord, oui ou non?
Ben, je pense que oui.
Bullshit. Ben non. Ben non.
Non?
Non. Quand l'attitude va, tout va. J'ai une bonne attitude, moi, je te dirais, là, 80% du temps.
Ah, oh, là, des fois, des fois, t'es bête.
Oui, ça, c'est le 20% qui reste. Mais il y a 80%, là, moi, je suis un jouisseur compulsif. Oui. Je suis le dieu des épicuriens.
Ouais.
Je suis un dieu de l'épicurie.
Oui.
Ça, c'est mon 80%. Mon 20%, tasse-toi. Quand ça va pas bien, ça va pas bien. J'ai des mauvaises attitudes. Mais même si j'ai une bonne attitude, puis je sors d'ici, puis je regarde pas des deux côtés de la rue tantôt, ça se peut que je me fasse frapper pareil. Fait que c'est pas vrai que quand l'attitude va, tout va. Quand j'ai de la merde dans ma vie, j'en ai eu, je vais en avoir, pas en mettant du parfum par-dessus, que ça devient plus de la merde, juste parce que j'ai caché la merde avec du parfum pour en faire une bonne attitude. Ben non. À un moment donné, au tout début, là, quand j'avais mon émission radio pendant 4 ans à CKRL, l'autre station, une des autres.
L'émission numéro 1 à Québec.
Oui, c'est ça. Tout le monde, dans le texte, tout le monde est numéro 1. Mais bon. Je reçois un conférencier dont je vais taire le nom, et dans son bouquin, un des chapitres, le titre, c'était « La bonne attitude vous ouvrira des portes ».
Je suis entièrement d'accord avec ça.
OK, je m'installe, je l'ai essayé. L'as-tu déjà essayé? Je l'ai installé. Je l'ai essayé. Je me suis installé dans mon salon, j'ai lu tout un chapitre. J'ai dit « OK, je vais l'essayer ». Je me suis installé dans mon salon, puis là, j'avais une porte d'une salle de bain là, dans la pièce où j'étais, et je me suis installé dans mon divan, assis là, Puis là, je me suis mis à penser à quelque chose d'extraordinaire. L'arrivée de mon fils que j'ai adopté au Kazakhstan, l'arrivée à l'aéroport de Québec, puis de revoir les parents après 51 jours passés au Kazakhstan. Écoute, c'était... Je t'en parle, puis j'ai encore des frissons. J'étais dans une attitude positive. Yannick, là, mais t'as pas idée à quel point j'étais dans une attitude positive. Puis pendant tout ce temps-là, je regardais à la porte. L'attitude, la bonne attitude, vous ouvrira des portes. Tabarcelac, elle a jamais bougé.
Oh!
Non, non, je te jure qu'elle n'a pas bougé. Tu me crois pas? Elle n'a pas bougé. J'ai essayé le contraire. J'ai dit, OK, je vais tout revirer ça de bord. Mauvaise attitude.
Sacré coup de pied dans la porte.
Fait que là, je m'installe, puis là, je pense à quelque chose qui me fait vraiment chier. Là, j'avais vraiment une mauvaise attitude. Assis sur mon divan, je regardais la porte. Christy, elle n'a jamais bougé. C'est pas la bonne attitude ou la mauvaise attitude qui compte. C'est ce que t'en fais.
Okay.
Parce que je me suis levé, puis je suis à la limite, ma main, ça a pogné de porte, puis là, elle a bougé. J'ai fait quelque chose.
Parfaitement d'accord sur l'image que tu nous donnes. Mais à un moment donné, exemple, en entreprise, des gens qui ont toujours une bonne attitude puis qui essayent de se motiver, que ce soit par ce qu'ils font ou par ce qu'ils font à l'extérieur de l'entreprise, vont toujours avoir plus d'opportunités. Les gens vont toujours être portés plus à aller vers ces gens-là que quelqu'un qui est constamment gris.
Pas vrai?
Puis qui a de l'air extrêmement négatif.
Pas vrai? Ben oui. pas vrai.
Je parle pas de tes cheveux blancs.
Non, mais si. Prends quelqu'un qui est ici, là, à station, là, dans n'importe quelle entreprise, quelqu'un qui a une super bonne attitude.
Oui.
Ça, c'est monsieur et madame attitude. Il n'est pas bon dans sa job. Ils ne donneront pas d'avancement. Le critère numéro un pour avancer dans une job, c'est d'être bon. Tu n'as pas besoin d'avoir une bonne ou une mauvaise attitude. Ouais. Ça aide, c'est le fun, c'est beau, c'est agréable d'être autour des gens qui ont une bonne attitude. C'est agréable d'être autour de moi dans mon 80% de bonne attitude. Mais si tu n'es pas bon dans ta job, tu n'avanceras pas. Non, t'avances.
Il y a certainement des auditeurs qui sont entièrement d'accord avec toi. Puis il y en a d'autres.
Tu travailles chez Tim Horton. Laisse-moi parler.
Il y en a d'autres qui
tu m'invites, laisse-moi parler.
Moi, j'ai des gens autour de moi qui ont une belle attitude avec le patron, puis que même s'ils sont incompétents, ils vont grimper dans la hiérarchie.
OK, mais ça, c'est pas le problème de la personne qui a l'attitude, c'est le problème du patron.
Non, mais c'est l'attitude qui a fait en sorte qu'elle a monté dans la hiérarchie.
OK, viens me voir dans 5 ans, puis dis-moi si ça a été utile. C'était une bonne décision. Ben, c'est ça.
Mais si t'es une bonne personne, en plus, t'as une bonne attitude, tu vas avoir plus de chance. Avec les
femmes. Si t'es une bonne personne, là on parle de mettons au travail.
Ouais.
Si t'es une bonne personne, t'as une bonne attitude, puis t'es bon en tabarnou, t'es compétent là. Ok, ça va t'aider. Si t'as une mauvaise attitude, une attitude à chier, puis que t'es pas bon, dépendamment de la job, si t'es serveur au Tim Horton à faire des cafés, ça marchera pas. Même si t'es super bon, si t'as une attitude à chier, ça marchera pas. Par contre, si t'es monteur de volant chez Honda, puis que t'es bon, puis t'as une pas bonne attitude, ça change absolument rien.
Ouais.
C'est ce qu'on fait de l'attitude. Faites quelque chose de l'émotion que vous aurez dans la bonne attitude ou dans la mauvaise attitude. Je disais ça à un moment donné. J'essaye des choses dans les conférences. D'habitude, je les essaye loin. J'essaye ça, là, mettons, j'ai donné une conférence à Nashville puis une autre à Albuquerque. Habituellement, j'essaye ça loin parce que je me dis, si ça marche pas...
Albuquerque, t'étais dans le désert.
Ah, j'étais loin. Mais j'ai dit, si ça marche pas, là-bas, personne au Québec va en entendre parler. Puis la première fois que j'ai raconté ça, j'ai dit, une mauvaise attitude va souvent vous apporter les meilleurs résultats positifs. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand je sors de la douche chez nous, OK?
Ouais.
Quand je sors, je suis tout nu, premièrement, puis là, je dis aux femmes, revenez avec moi, là, on revient sur scène, laissez votre vision de côté. Si je tourne à droite, je me ramasse dans ma chambre, mon walk-in, je peux aller m'habiller. Si je tourne à gauche, je me ramasse devant mon miroir. Pendant des mois et des mois et des mois, avec mon 45 livres en trop à ce moment-là, je tournais à droite, je m'essuyais, puis j'allais dans ma garde-robe, je m'habillais, souvent en noir, crinquais la ceinture un peu, je revenais devant le miroir, je me regardais, tu sais, pas si pire que ça. Puis je partais, mon portefeuille dans la poche droite avec ma carte de Nautilus dans le portefeuille, puis Christy, je partais vivre avec mon 45 livres de trop qui paraissait pas trop.
Ouais.
À un moment donné, j'ai eu une crampe au cerveau. Yannick, je suis tourné à gauche. Au lieu de tourner à droite pour aller dans. Mais je tournais à gauche, je me suis ramassé devant mon miroir. Christy, c'était pas beau, là.
Non.
Yannick, je me suis regardé dans toutes les positions possibles. Le cercle du soleil, toi, matin, devant le cercle, devant le miroir, là. J'ai vu des choses que je savais pas qu'ils existaient puis que j'ai pas trouvé belles. Il y a d'autres choses que j'ai vues que je savais qu'ils existaient puis c'était pas plus beau. Je me suis écœuré à un point tel.
Hey, mais on va passer une super belle fête de semaine. On s'en va en camping. Ça me prend 300$ pour passer ma journée samedi en camping. Ben, cette semaine, je ramasse cet argent-là pour ça. C'est comme ça que je me motive.
Ouais, ouais. Tu parlais de Jean-Marc Chaput. On avait fait une conférence, lui et moi, les deux politiquement incorrects du Québec.
Sacrifice, Jean!
Sacrifice, le grand. Et puis, on avait préparé ça ensemble. J'avais été chez eux dans le salon. Puis on avait préparé nos affaires. Pour ça. Puis, à un moment donné, il était venu une couple de fois à mon émission de radio. Puis, j'ai demandé, Jean-Marc, quel métier n'aurais-tu pas fait? là, il réfléchit un peu à ça. Il dit, je pense que j'aurais pas été un bon... J'aurais pas aimé ça, moi, faire ça. Testeur de chaleur d'asphalte. Puis tu dis quoi? Non. Au ministère du Transport, il y a un gars qui a un bâton puis un pic. Puis lui, là, il se promène sur les autoroutes du Québec puis il teste la chaleur de l'asphalte pour savoir est-ce que la composante de cet asphalte-là est correcte. Bah, ça va-tu passer les hivers? Il dit, moi, j'aurais pas fait ça, moi, un testeur de... Mais il dit, sais-tu quoi? Ce gars-là, là, d'après moi, il n'a pas les mêmes problèmes que moi. Il dit, moi, là, faut que je, pour gagner ma vie, il faut que je fasse de la représentation. Puis il dit, je suis un solopreneur, puis cette, ma job m'habite 24 heures sur 24, 365 jours par année. D'après moi, lui, au salaire qu'il fait, là, puis à, surtout à la job qu'il fait, là, à 5 heures, là, quand il a fini de tester son dernier asphalte, là, il ne ramène pas ça à la maison. Fait que lui, il a peut-être la liberté de ne pas ramener ses problèmes à la maison. Quel problème tu veux ramener à la maison? Puis chérie, ah, j'ai une grosse journée, chérie, tu sais pas ce qui m'est arrivé. L'asphalte à Drummondville était à 25 au lieu de 28. Ça a pas de... Non. Okay. Toi, tu as la liberté à 5 heures de ne pas ramener tes problèmes à la maison, exact. Alors que celui qui fait 350 000 par année, puis qu'il faut qu'il fasse... Lui, les ramène peut-être à la maison. Fait que c'est trouver... Tu sais, cesser de chercher l'équilibre parfait, c'est un mythe de dire « je vais trouver l'équilibre parfait dans ma vie ». Ça ne marche pas. Chercher l'harmonie dans le déséquilibre. Mettons quelqu'un, là, que c'est un comptable, dans la période des impôts, là, oublie ça, fille, on n'ira pas en voyage. Ah, chérie, on n'ira pas en voyage. Ça se peut qu'on ne fasse pas l'amour souvent non plus, parce qu'à l'heure que je vais me coucher, je veux dormir. Fait que là, il y a un déséquilibre dans les pointes de tarte.
À ton âge, tu dis « ça se peut que je ne fasse pas l'amour pas parce
moi.
Que je veux dormir ».
Pas moi. Non, je ne parle pas de moi. Là.
Non, tu parles des autres.
Non, je parle des autres. Ben, je ne suis pas comptable. Mais le ou la comptable qui est en période des impôts, il y a un déséquilibre dans la période des impôts. Trouve ton harmonie dans ce déséquilibre-là. Cessez de chercher l'équilibre parfait. Il n'existe pas. Cherchez l'harmonie dans ce que vous avez comme vie. Puis, baptême, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, t'aimes pas ta job, change de job. T'aimes pas ton conjoint, t'es plus heureux, change de conjoint. Ouais. T'aimes pas tes... change d'amis. T'aimes pas ta relation avec tes enfants, change pas d'enfant, mais passe peut-être un petit peu plus de temps avec eux autres. Il y a une étude aux États-Unis qui avait démontré que le parent moyen passe en moyenne... Écoute, je pense que c'était 13. 13 minutes par semaine à avoir des conversations significatives avec leurs enfants. Et 30 heures devant leur télé, tout juste de vous dire que votre télé est plus importante que vos enfants.
Quand je parlais de dopage tantôt.
Exactement. Fait que si vous n'êtes pas confortable avec la relation que vous avez avec vos enfants, faites quelque chose. Vous n'êtes pas heureux dans votre vie, faites quelque chose. C'est pas quelqu'un qui va venir le faire à votre vous, à votre place. C'est pas un super-héros, puis c'est pas un pompon sur scène ou qui écrit des livres.
Pis c'est de se mettre en mouvement aussi. Parce que très souvent, on dit oui, mais je vais le faire, je vais le faire. Mais on prend pas la peine de se mettre en mouvement.
Le mot essayer, enlevez ça de votre vocabulaire. Faudrait plus que ça existe. Essaye de toucher à ton nez. Tu y touches pas, baptême.
Je suis capable.
Bon, mais fais-le.
Je sais que ça
arrêtez d'essayer,
pas de l'air flexible, mais je le sais. Mais, tu sais, si t'es à 1000 mètres de ton objectif, si aujourd'hui t'en fais 3 mètres, t'es toujours bien plus proche de ton objectif que hier.
T'sais.
Tout à fait. La motivation, parce que je trouvais que c'est un sujet le fun que tu m'avais mis dans les possibilités de sujet, tu sais, faut la trouver. Puis moi, je la trouve justement. Tu sais, ma job, c'est du plaisir. Fait que, tu sais, c'est sûr que je travaille pas à chaîne, mais je me dis, tu sais, des fois, quand il y a des journées qui ressemblent plus à d'autres, qui sont un peu plus particulières, je me dis, ben, tu sais quoi, ça me permet de passer mes week-ends avec mes gars. Puis s'ils veulent aller aux galeries de la capitale, aller sur, tu sais, les petits trucs mobiles, là, comme les petites motocross, avec des animaux, ben, ils vont y aller parce que je vais avoir l'argent pour, parce que j'ai fait ma job cette semaine. Je la trouve ailleurs parfois, puis. Je trouve que c'est une belle façon de se motiver.
Et là, tu m'amènes sur un sujet. Justement, moi, mon sujet, c'est le sens des responsabilités. Quand je dis « votre vie est de votre faute », on parle du sens des responsabilités. Une de vos principales motivations devrait être de respecter vos engagements et de prendre vos responsabilités. Tu as une responsabilité envers ta famille pour réussir à payer la maison, réussir à payer des vacances, réussir à payer des petits jeux avec des petits animaux comme tu viens de donner comme exemple. C'en est une motivation, ça aussi.
Ben oui, c'est ça.
T'es-tu obligé de t'aimer ta job? Aimer votre job 365 jours par année, bullshit, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'aime pas ma job, moi. Ma job de conférencier, là, j'aime pas ça.
T'aimes pas ça?
Non.
Mais voyons donc.
Moi, te le dire pourquoi. C'est pas d'être conférencier que j'aime pas, c'est la job. Et je t'explique pourquoi. Les gens pensent que d'être conférencier, c'est de monter sur scène pendant 1h30 de temps.
C'est juste ça.
Nous autres, on est parachutés sur une scène, tabarslac. Non. Faut que tu trouves des clients, faut que tu les appelles, faut que tu te fasses raccrocher au nez 100 fois avant que quelqu'un dise « OK, c'est quoi votre conférence à vous? Vous chargez combien? Trop cher, on passe à un autre. » Fait qu'il y a toute cette prospection-là. Une fois que tu as une entente, faut que tu fasses ton contrat, faut que tu prépares ton voyage, prends tes billets d'avion, passe à la sécurité, t'arrives à un taxi qui est marabout, t'es supposé avoir une étoile, un hôtel 4 étoiles, tu te ramasses dans un 2 étoiles. Le lendemain matin, faut que tu te lèves à 5 heures pour aller monter monter ta table avec tous tes livres, puis après ça, il faut que tu montes sur scène pour faire cette job-là. Le monde pense... Moi, là, c'est 20 % de ma job monter sur scène. Le 80 % avant, puis après, là...
Mais je ne le vois pas.
Christique que j'haïs ça. J'haïs ça pour mourir. J'haïs ça pour mourir. Mais j'aime tellement mon 20 % que je suis prêt à vivre avec le 80 % que j'aime pas.
C'est là que tu trouves ta motivation.
C'est là que je... C'est... Premièrement, j'aime ça, cette portion-là. Fait que je vais la chercher suffisamment pour endurer le 80 % que j'aime pas. Mais c'est la même affaire pour tout le monde. N'allez pas penser, ouais. Tu viens de le dire. C'est pas vrai qu'à tous les jours, t'es bien, t'es dans le plaisir de ton entrevue. Ça se peut que tu files pas, ça se peut que... Mais en bout de ligne, t'as fait ce que t'avais à faire. Faites ce que vous avez dit que vous feriez, de la façon que vous avez dit que vous le feriez, et au moment que vous avez dit que vous le feriez, vous allez trouver dans les résultats de cet engagement-là votre motivation.
Tu sais, je te fais rentrer un peu dans ma vie privée, mais c'est pas grave, on commence à se connaître.
Étends-toi.
Je vais garder mon linge. J'asais avec un des propriétaires de l'entreprise ici, un des frères Leclerc.
Ouais.
J'asais avec Nick, puis on va organiser quelque chose dans les prochains mois que je peux pas jaser avec les auditeurs là maintenant, puis avec toi. Mais on va organiser quelque chose qui va servir à amasser des fonds pour donner un endroit qu'on juge qu'ils ont besoin d'argent.
Okay.
Et je parlais de ça avec Nick, de cet événement-là qui est un événement pour moi qu'on va, où on va shiner, puis les gens vont dire « Wow, ils font quand même une super de belle soirée pour les auditeurs. » Puis en plus, ils vont amasser des fonds pour des gens qui en ont besoin. Puis j'ai dit à Nick, puis je le pensais sincèrement, Jean, j'ai dit, tu sais, notre job, on est bien payé. On travaille dans le plaisir la plupart du temps. Mais ce qui est encore plus significatif, c'est de voir que parfois, on peut changer la vie des gens. Puis en ramassant ces fonds-là dans les prochains mois, puis qu'on envoie ça directement à cet organisme-là qui a vraiment besoin d'argent puis qui va servir aux gens qui fréquentent cet organisme-là, j'ai l'impression que ça, c'est ça ma vraie paye.
Mm-hmm.
Puis c'est pas une vocation, mais c'est quelque chose que j'apprécie parce que c'est à l'extérieur de ma job. Pas obligé de le faire, Jean.
Tout à fait, ben
mais je vais le faire parce que je me dis, hey, je vais pouvoir dire que j'ai aidé des gens.
La vraie paye n'est
puis
pas
ma motivation, elle peut être là aussi.
Tout à fait. La motivation au niveau travail n'est pas uniquement dans le chèque de paye. Le chèque de paye nous aide à voir à nos responsabilités, mais il peut y avoir d'autres sources dans notre travail qui nous motivent. De donner des conférences gratuites, moi, parce que ça me faisait plaisir de le faire pour aider les gens. Puis je sais pas, Nick, je sais pas s'il était à l'écoute, mais je te lance l'idée à toi. Remplissez-moi la salle Le Bourgneuf ici en bas. Je donne une conférence gratuite, puis vous prendrez cet argent-là pour la donner à votre association. Puis vous verrez si ça vous tente de faire ça. Mais de faire ça, de consacrer une heure et demie puis c'est pas juste une heure et demie de travail, là, quand je donne une conférence. Je l'ai préparé, cette conférence-là. Il y a du stock derrière ça. Tu sais, Picasso, quand il fait un X rouge à la toile, là, c'est pas juste 30 secondes que ça y a pris pour faire ça. Il y a un art qui est accumulé pour
moi,
ça.
Moi, j'ai vu l'exposition, là, puis il y a des premiers tableaux de Picasso.
Il a pas passé longtemps.
C'est parce qu'il s'appelle Picasso que ça vaut ça, parce que j'aurais peut-être pu faire la même affaire. Là.
Mais bon, tout ça pour dire que dans la motivation sur le travail ne se résume pas à l'argent.
Oui. Ah non, je suis entièrement d'accord avec toi. Hey, on va, avant la pause, on va parler d'attitude.
Ouais.
L'attitude.
Oui. Quand l'attitude
va... positif? C'est-tu négatif, avoir de l'attitude?
Oui. Avoir une bonne ou une mauvaise attitude. Si je te dis ça, toi, comment réagis-tu à la phrase qu'on entend depuis toujours, depuis des années, « Quand l'attitude va, tout va ». Es-tu d'accord avec ça?
Comment je réagis à ça?
Es-tu d'accord, oui ou non?
Ben, oui, je pense que oui.
Bullshit. Ben non. Ben non.
Non?
Non. Quand l'attitude va, tout va. J'ai une bonne attitude, moi, je te dirais, là, 80% du temps.
Ah, oh, là, des fois, moi, t'es bête. Des fois, t'es bête.
Oui, ça, c'est le 20% qui reste. Mais il y a 80%, là, moi, je suis un jouisseur compulsif. Oui. Je suis le dieu des épicuriens.
Ouais.
Je suis un dieu de l'épicurie.
Oui.
Ça, c'est mon 80%. Mon 20%, tasse-toi. Quand ça va pas bien, ça va pas bien. J'ai des mauvaises attitudes. Mais même si j'ai une bonne attitude, puis je sors d'ici, puis je regarde pas des deux côtés de la rue tantôt, ça se peut que je me fasse frapper pareil. Fait que c'est pas vrai que quand l'attitude va, tout va. Quand j'ai de la merde dans ma vie, j'en ai, je vais en avoir, pas en mettant du parfum par-dessus, que ça devient plus de la merde, juste parce que j'ai caché la merde avec du parfum pour en faire une bonne attitude, ben non. À un moment donné, au tout début, là, quand j'avais mon émission radio pendant 4 ans à CKRL, l'autre station, une des autres...
L'émission numéro 1 à Québec.
Oui, c'est ça. Tout le monde, ouais, dans le texte, tout le monde est numéro 1. Mais bon... je reçois un conférencier dont je vais taire le nom, et dans son bouquin, un des chapitres, le titre, c'était « La bonne attitude vous ouvrira des portes ».
Je suis entièrement d'accord avec ça.
OK, je m'installe, je l'ai essayé. L'as-tu déjà essayé? Je l'ai installé. Je l'ai essayé. Je me suis installé dans mon salon. J'ai lu tout un chapitre. J'ai dit, OK, je vais l'essayer. Je me suis installé dans mon salon. Puis là, j'avais une porte d'une salle de bain là, dans la pièce où j'étais. Et je me suis installé dans mon divan, assis là. Puis là, je me suis mis à penser à quelque chose d'extraordinaire. L'arrivée de mon fils que j'ai adopté au Kazakhstan, l'arrivée à l'aéroport de Québec, puis de revoir les parents après 51 jours passés au Kazakhstan. Écoute, c'était... Je t'en parle, puis j'ai encore des frissons. J'étais dans une attitude positive, Jean-Yannick, là, mais t'as pas idée à quel point j'étais dans une attitude positive. Puis pendant tout ce temps-là, je regardais à la porte. L'attitude, la bonne attitude, vous ouvrira des portes. Tabarcelac, elle a jamais bougé. Non, non, je te jure qu'elle n'a pas bougé. Tu ne me crois pas? Elle n'a pas bougé. J'ai essayé le contraire. J'ai dit, OK, je vais tout revirer ça de bord. Mauvaise attitude.
Sacré coup de pied dans la porte.
Fait que là, je m'installe, puis là, je pense à quelque chose qui me fait vraiment chier. Là, j'avais vraiment une mauvaise attitude. Assis sur mon divan, je regardais à la porte. Christy, elle n'a jamais bougé. C'est pas la bonne attitude ou la mauvaise attitude qui compte. C'est ce que tu en fais.
Okay.
Parce que je me suis levé, puis je suis à la limite, ma main, ça a pogné de porte, puis là, elle a bougé. J'ai fait
d'accord.
Quelque chose.
Parfaitement d'accord sur l'image que tu nous donnes. Mais à un moment donné, exemple, en entreprise, des gens qui ont toujours une bonne attitude puis qui essayent de se motiver, que ce soit par ce qu'ils font ou par ce qu'ils font à l'extérieur de l'entreprise, vont toujours avoir plus d'opportunités. Les gens vont toujours être portés plus à aller vers ces gens-là que quelqu'un qui est constamment gris.
Pas vrai?
Puis qui a de l'air extrêmement
pas
négatif.
Vrai?
Ben oui.
Pas vrai, pas vrai.
Je parle pas de tes cheveux blancs.
Non, 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 mais si... Prends quelqu'un qui est ici, là, à station, là, qui a une... dans n'importe quelle entreprise, quelqu'un qui a une super bonne attitude.
Oui.
Ça, c'est monsieur et madame attitude. Il n'est pas bon dans sa job. Ils ne donneront pas d'avancement. Le critère numéro un pour avancer dans une job, c'est d'être bon. Tu n'as pas besoin d'avoir une bonne ou une mauvaise attitude.
Ouais.
Ça aide, c'est le fun, c'est beau, c'est agréable d'être autour des gens qui ont une bonne attitude. C'est agréable d'être autour de moi dans mon 80% de bonne attitude. Mais si tu n'es pas bon dans ta job, tu n'avanceras pas. Non, t'avances.
Il y a certainement des auditeurs qui sont entièrement d'accord avec toi. Puis il y en a d'autres.
Tu travailles chez Tim Horton, laisse-moi parler.
Il y en a d'autres qui
tu m'invites, dire. Laisse-moi parler.
Moi, j'ai des gens autour de moi qui ont une belle attitude avec le patron, puis que même s'ils sont incompétents, ils vont grimper dans la hiérarchie.
OK, mais ça, c'est pareil. Pas le problème de la personne qui a l'attitude, c'est le problème du patron.
Non, mais c'est l'attitude qui a fait en sorte qu'elle a monté dans la hiérarchie.
OK, viens me voir dans 5 ans, puis dis-moi si ça a été utile. Ça a été une bonne décision.
Non,
du patron. Ben, c'est ça.
Mais si t'es une bonne personne, en plus, t'as une bonne attitude, tu vas avoir plus de chance avec les femmes.
Si t'es une bonne personne, là, on parle de, mettons, au travail.
Ouais.
Si t'es une bonne personne, t'as une bonne attitude, puis t'es bon en tabarnou, t'es compétent, là, OK, ça va t'aider. Si t'as une mauvaise attitude, une attitude à chier, puis que t'es pas bon, dépendamment de la job, si t'es serveur au Tim Horton à faire des cafés, ça marchera pas. Même si t'es super bon, si t'as une attitude à chier, ça marchera pas. Par contre, si t'es monteur de volant chez Honda, puis que t'es bon, puis t'as une pas bonne attitude, ça change absolument rien.
Ouais.
C'est ce qu'on fait de l'attitude. Faites quelque chose de l'émotion que vous aurez dans la bonne attitude ou dans la mauvaise attitude. Je disais ça à un moment donné. J'essaye des choses dans les conférences. D'habitude, je les essaye loin. J'essaye ça, là, mettons, j'ai donné une conférence à Nashville puis une autre à Albuquerque. Habituellement, j'essaye ça loin parce que je me dis, si ça marche pas...
Albuquerque, t'étais dans le désert?
Ah, j'étais loin. Mais j'ai dit, si ça marche pas, là-bas, personne au Québec va en entendre parler. Puis la première fois que j'ai raconté ça, j'ai dit, une mauvaise attitude va souvent vous apporter les meilleurs résultats positifs. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand je sors de la douche chez nous, OK?
Ouais.
Quand je sors, je suis tout nu, premièrement. Puis là, je dis aux femmes, revenez avec moi. Là, on revient sur scène. Laissez votre vision de côté. Si je tourne à droite, je me ramasse dans ma chambre, mon walk-in, je peux aller m'habiller. Si je tourne à gauche, je me ramasse devant mon miroir. Pendant des mois et des mois et des mois, avec mon 45 livres en trop à ce moment-là, je tournais à droite, je m'essuyais, puis j'allais dans ma garde-robe, je m'habillais, souvent en noir, crinquais la ceinture un peu, je revenais devant le miroir, je me regardais, tu sais, pas si pire que ça. Puis je partais, mon portefeuille dans la poche droite avec ma carte de Nautilus dans le portefeuille, puis Christy, je partais vivre avec mon 45 livres de trop qui paraissait pas trop.
Ouais.
À un moment donné, j'ai eu une crampe au cerveau. Yannick, je suis tourné à gauche. Au lieu de tourner à droite pour aller dans. Mais je tournais à gauche, je me suis ramassé devant mon miroir. Christy, c'était pas beau, là.
Non.
Yannick, je me suis regardé dans toutes les positions possibles. Le cercle du soleil, toi, matin, devant le cercle, devant le miroir, là. J'ai vu des choses que je savais pas qu'ils existaient puis que j'ai pas trouvé belles. Il y a d'autres choses que j'ai vues que je savais qu'ils existaient puis que c'était pas plus beau. Je me suis écœuré à un point tel que je me suis dit, il faut que ça arrête, Jean. Arrête. Je devais faire quelque chose pour arrêter la décadence physique dans laquelle j'étais, puis que je perpétuais à alimenter. Ben, attends, je suis parti, je suis allé m'entraîner. J'ai commencé. Ben, je me suis habillé. Je suis parti, puis je suis allé m'entraîner. J'ai sorti ma carte Nautilus. Elle était même plus bonne. Ben, t'es obligé de la renouveler.
Ben oui.
Mais c'est ça. C'est ce que vous faites de la bonne attitude ou de la mauvaise, comme l'exemple que je viens de vous donner, qui va changer quelque chose dans votre vie. Assis dans votre divan avec votre bonne attitude ou votre mauvaise,
ça changera
absolument rien.
Voilà. Hey, on fait une très courte pause, puis on revient tout de suite, Jean. Inquiétez-vous pas. Jean Nadeau, le conférencier qui a une très bonne attitude. Il a conservé sa très bonne attitude pendant la pause. Mais bref, je comprends ce que tu veux dire.
Tu me rapproches du 20% de mauvaise attitude. Là. Calme-toi.
Je comprends ce que tu veux dire, mais quelqu'un de compétent qui a une belle attitude, les gens vont toujours être portés à aller vers ces
Alléluia, gens. Je suis d'accord avec toi.
Alléluia! Vous pouvez être ce que vous voulez être.
Une autre affaire qu'on entend sur nous. Vous pouvez être tout ce que vous voulez. Ben non.
Non.
Ben non. Si tu mesures 6 pieds et 5 puis tu pèses 280 livres...
Tu peux pas être une ballerine.
Tu peux pas être une ballerine puis tu peux pas être pilote de Formule 1 non plus. Ta cuisse rentre pas dans le cockpit. Ça fait pas de sens. Prends-en conscience ou laisse quelqu'un t'en faire prendre conscience. Si c'est mon fils qui m'arrive à 18 ans, à 19 ans, puis qui mesure 6 pieds 5 puis qui paye 285, papa, t'es un conférencier en motivation, toi. Je veux que tu me motives à devenir pilote de Formule 1. Je vais dire, mon petit loup, je t'aime assez pour te dire que non. Non, non, non. Étudie pour devenir ingénieur puis te rapprocher de Ferrari ou de McLaren puis de te rapprocher de la Formule 1. Mais mon petit loup, tu seras jamais un pilote de Formule 1. Pas avec la shape que tu as là. Tu rentres pas dans le cockpit. Ta cuisse rentre pas dans le cockpit. Puis ceux qui nous disent des phrases comme ça, là, puis qui tiennent absolument puis qui veulent pas changer leur opinion par rapport à une phrase comme ça, ils me disent « Ouais, ouais, mais Jean, ne défais pas le rêve de ton fils. Dis-lui plutôt peut-être de devenir pilote de Monster Truck. » Tu sais, les gros trucks, là. Il y a des courses de... Des courses, là. C'est des gros trucks.
Oui.
Hey, non, non. Change pas le rêve de mon fils juste parce que tu veux que ta phrase, elle marche. Faut que ça soit logique, à un moment donné. Puis tu sais, oui, il y a des gens, puis peut-être que tu penses ça toi aussi des fois, que je suis trop terre-à-terre, que je suis trop... Il y a une dame qui m'avait dit ça.
Moi, j'aime ça parce que tu brosses un peu.
Il y a une madame, un qui m'avait écrit, puis en fait, elle avait appelé à l'émission radio, puis elle avait dit, « Monsieur Nadeau, je vous trouve simple, même simpliste des fois. » J'ai dit, « Madame, c'est pas une impression. C'est très vrai. C'est très vrai. J'essaie de ramener ça à la pleine simplicité du propos et de la réflexion. On est rendu là qu'on on invente des discours puis des livres et des livres et des livres, pensant que là, c'est de la science infuse, cette affaire-là. Ben non, c'est juste de l'humain. C'est juste du comportement puis de la pensée humaine. Ramenons ça à ce qui est logique.
Ouais.
Rien n'est impossible. Bullshit. Tire-toi un peu en bas de l'Empire State Building et pousse-toi tout le fond de culotte puis mets-toi à marcher. Ça marchera pas. C'est impossible. Concentrez-vous sur ce qui est improbable, mais qui est possible, qui va peut-être être très dur à réaliser, mais qui est possible. C'est peut-être très improbable, mais c'est possible. Je vais être en arrière de vous, puis je vais vous encourager comme jamais. Mais si c'est impossible, c'est impossible, Batin. Ils n'ont pas mis ce mot-là dans le dictionnaire juste pour faire un mot de plus, Batin.
Jean Nadeau, en terminant, je veux juste te dire, tu mérites ce que la vie a de meilleur à t'offrir.
Ça, c'est probablement la pire de toutes les phrases qui sont véhiculées dans mon industrie. Vous méritez la vie que vous avez, le meilleur de ce que la vie a à offrir.
C'est pas qu'il y a le cancer, là, puis t'entends une phrase de même, tu fais ça, le gars.
Exactement, mais tu mérites la vie que tu as aujourd'hui, Yannick. C'est pourquoi? Parce que la vie que tu as aujourd'hui, elle n'est rien d'autre, rien de plus, rien de moins que les conséquences positives ou négatives, des pensées, des paroles et des actions que tu as faites hier. Puis ça va être la même chose dans 10 ans.
Ben oui.
On mérite la vie qu'on a actuellement. Concentrez-vous sur ce que vous faites actuellement, puis vous allez mériter ce qui va découler de ce que vous faites actuellement. Tu sais, nos parents nous ont donné la vie. Merci, papa, maman. Puis en plus de ça, ils nous ont donné une carte accès illimité au buffet de la vie, le plus extraordinaire buffet qui existe. C'est fou tout ce qu'on peut faire dans la vie. Mais tabarcelac, si tu vas au buffet chinois puis tu restes assis à ta table avec une assiette blanche, si tu passes jamais au guichet, quand ils vont fermer le restaurant, ta plate va être encore blanche. Mais si tu passes pas au buffet de la vie puis que tu penses que tout est permis, tout est dû, ben il n'y aura jamais rien dans ta plate. Lève-toi le derrière, pousse-toi le fond de culotte puis va-t'en au buffet.
C'est si simple, Jean.
La vie est simple. Il n'y a pas personne qui nous a dit que ça serait facile, mais la vie est simple, effectivement.
Pour les gens, les entreprises qui voudraient communiquer avec toi pour des conférences, ouais. Je te botte les fesses, on pourrait nommer ces conférences-là.
Oui.
ils peuvent communiquer avec toi de quelle façon?
En fait, idéalement, courriel ou j'ai une ligne spéciale là, où les gens peuvent appeler, qui n'est pas ma ligne personnelle à moi. Là, donc, courriel, Jean A commercial, Octopus DMC. Je sais que c'est compliqué. Octopus, là, c'est, ben, s'ils sont en entreprise...
JeanHotmail.com était pris, quoi.
Ben, la hotmail, c'est octopusdmc.com, fait que ça marche pas plus. Donc, Jean, ça c'est facile, J-E-A-N, en commercial, octopus, comme une pieuvre en anglais, DMC, je vous épargne la raison de ça. Donc, octopusdmc.com, ou plus facile, écrivez-moi un texto au 418-806-2729 et on va jaser de ça ensemble, puis je vais vous proposer l'approche coup de pied au derrière, coup de pied, coup de cœur. Puis on verra ce que vos employés en feront.
Jean Lado, c'est toujours un plaisir. Il nous reste à peu près 75 sujets à jaser. Fait que tu vas être obligé de revenir dans les prochaines semaines. Ben oui, t'as un billet de saison. T'as ton billet.
Ouais. C'était quoi donc qu'il disait que tout le monde en parle, la carte chouchou?
Oh ouais, t'as la carte chouchou. Je te donne ça. J'en ai à peu près 30. J'ai donné tout.
Tu viens de m'enlever de l'exclusivité.
J'ai donné tout. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de Boulevard. Merci à toi. On se rejase demain, 11h, pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Ciao.
Marceau le soir.
Et si tu donnais un sens à ton été? Laura Les Merveilles t'attend. Viens travailler avec nous pour faire une différence dans la vie de jeunes en situation de polyhandicap et leur famille. Contribue